Bonsoir, ouvrons le temps du débat consacré ce samedi au Liban. L'enfer. Voilà la perspective qui attend le Liban et les Libanais si un gouvernement n'est pas rapidement formé. La déclaration vient du président Michel Aoun lors d'une conférence de presse tenue lundi dernier, 3 semaines après la désignation de Mustapha Adib comme premier ministre. Comme si nous vivions au paradis, n'ont pas manqué de répondre les manifestants qui cette semaine ont battu le pavé de Beyrouth malgré l'épidémie de Covid-19. Les explosions qui ont ravagé la ville le 4 août dernier et qui ont précipité la chute du précédent gouvernement sont venues aggraver une crise économique dont le pays ne parvient pas à s'extirper, pris comme il l'est dans une crise sociale, on se souvient du mouvement de révolte l'an dernier, une crise de la corruption et finalement du modèle confessionnel. L'équilibre entre chrétiens maronites, musulmans sunnites et chiites, tel que défini en 1989 par les accords du Taif, à la fin de la guerre civile, est à la fois plus contesté que jamais et n'a paradoxalement jamais semblé aussi difficile à réformer. On a l'habitude de parler de la résilience du peuple libanais, mais on finit par se demander si la résilience ne serait pas plutôt du côté des partisans du statu quo. La classe dirigeante conspuée il y a un an pour sa corruption parvient toujours à mobiliser la peur de l'autre et le système confessionnel pour se maintenir. Dans la population, il semble aussi y avoir une véritable schizophrénie entre la revendication d'une véritable citoyenneté libanaise et la peur de voir sa propre communauté avancer la première et donc de se retrouver lésée et menacée. Il y a bien pourtant une société qui pousse dans le sens de la création d'un état civil, d'un état laïque, comme l'a demandé le président Aoun fin août. Faut-il ajouter à tout cela les diverses interventions étrangères et une crise des réfugiés qui pèse sur le Liban depuis des décennies? Liban, un système confessionnel au bord de l'implosion? C'est la question du temps du débat de ce samedi dans le cadre d'un week-end spécial sur France Culture en partenariat avec l'Institut du Monde Arabe qui pose la question « Comment penser l'avenir du Liban ?» à écouter en direct sur France Culture et quand vous le souhaitez sur franceculture.fr.
France Culture, le temps du débat du samedi. Raphaël Bourgois.
Le gouvernement a lamentablement échoué. Il n'a pas combattu la corruption. Car tant qu'il y aura des milices plus fortes que l'État, il ne pourra pas lutter contre la corruption. Tant qu'il y a des dirigeants de groupes politiques plus forts que l'État, il ne peut pas lutter contre la corruption.
Tous, ça veut dire tous.
C'est le mot d'ordre qui a été inventé par le soulèvement libanais, donc qui a commencé le 17 octobre dernier, et qui veut dire que toute la classe politique dégage, on n'en veut plus, on la vomit, on n'en peut plus.
Ça doit servir de leçon au gouvernement, ce qui s'est passé au port de Beyrouth. Ils doivent agir. C'est la vérité. Le peuple veut construire un pays. Nous affirmons que ce régime est corrompu, divisé par des sectes basées sur le pouvoir et la religion. C'est le régime de la négligence, au point de laisser des substances explosives sur le port de Beyrouth qui pouvaient exploser à n'importe quel moment.
J'ai vu qu'un processus s'était enclenché ces dernières heures, qui a permis de faire émerger une figure en tant que Premier ministre. Il ne m'appartient aucunement ni de l'approuver ni de l'adouber. C'est la souveraineté libanaise qui est ici en jeu. Mais de m'assurer que c'est bien un gouvernement de mission qui sera formé au plus vite pour mettre en œuvre les réformes que nous connaissons au service des Libanaises et des Libanais.
Le président Emmanuel Macron, président français Emmanuel Macron, qui était à Beyrouth, qui avait donné 15 jours aux Libanais, enfin, pour former le gouvernement du Liban. On a bien dépassé ce délai. Et ce gouvernement n'est toujours pas formé. Aurélie Dher, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes enseignante-chercheuse à Paris Dauphine et à Sciences Po Paris. Vous avez particulièrement travaillé sur le Hezbollah, publié en 2014 aux presses universitaires de France, le Hezbollah, mobilisation et pouvoir, ici en studio avec vous pour discuter lors de ce temps du débat du samedi. Ziane Majed, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, franco-libanais et professeur ici à Paris à l'université américaine et vous êtes le co-auteur d'un livre sur la Syrie, mais vous connaissez aussi bien. Et puis de toute façon, quand on parle du Liban, il faut parler de la Syrie. Quand on parle de la Syrie, il faut parler du Liban. Dans la tête de Bachar al-Assad, c'est chez Actes Sud et c'était en 2018. Et nous sommes depuis Beyrouth, depuis le bureau d'Aurélien Colli, le correspondant de Radio France à Beyrouth avec Laure Stéphan, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à RFI, chez nos collègues de RFI, et pour le quotidien Le Monde, et vous publiez en cette rentrée Libanais, Ligne de vie d'un peuple, c'est la collection des ateliers Henri Dougier, la collection, la maison d'édition des ateliers Henri Dougier. C'est un livre qui propose une série de portraits et qui permet comme ça de rentrer un petit peu dans l'actualité de ce Liban, tellement marqué, évidemment, comme on va le voir au cours de cette émission, par la question confessionnelle. Bien sûr, cette question confessionnelle qui semble se mettre, Laure Stéphan, en travers, encore une fois, de la constitution du gouvernement, puisqu'il s'agit pour les chiites, pour Amal, le parti Amal, et pour le Hezbollah, de obtenir le poste de ministre des Finances. C'est un poste important, vous nous direz peut-être pourquoi. Et voilà, les autres, les sunnites et les chrétiens disent que non, les portefeuilles doivent tourner et c'est ce qui bloque la situation. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point, voilà, à l'heure où on se parle, au moment où on se parle de cette situation politique tout à fait bloquée?
Voilà, donc au moment où on se parle, Mustapha Adib, le premier ministre désigné, est à Baabda pour rencontrer le président Michel Aoun. Il y a plusieurs rencontres de ce type depuis début septembre, puisqu'il avait été nommé lui fin août, des rencontres qui n'ont pas abouti. Et ce processus de formation du gouvernement semblait au départ relativement bien enclenché. Et effectivement, les partis Amal et Hezbollah demandent d'obtenir le ministère des Finances. Alors, c'est ils avancent la question de la représentation, de la représentativité des chiites, mais cette demande, en fait, elle est aussi venue après que des sanctions et était annoncé par les États-Unis contre deux anciens ministres, dont l'un est le bras droit de Nabi Berri, donc président du Parlement et chef du parti Amal. Et donc, on a à la fois aujourd'hui un blocage qui est interne et un blocage qui a une couleur régionale, internationale, on va dire.
Aurélie Daher, oui, il y a ce blocage décrit à l'instant par Laure Stéphan. Là, il faut rappeler aussi que Amal et Hezbollah sont les vainqueurs. Enfin, ils dominent à la Chambre, sont vainqueurs des dernières élections législatives qui étaient en 2018, si mes souvenirs sont
tout
bons.
Tout à fait.
Et donc, il y a ce blocage qui est aussi revendiqué, ce poste de ministre des Finances, par Amal et le Hezbollah, parce que c'est un poste important d'un point de vue du pouvoir exécutif, puisque aux côtés du président, qui est donc toujours chrétien, et aux côtés du premier ministre, qui est donc toujours sunnite, doit toujours signer le ministre des Finances, là qui n'est pas un poste dévolu normalement à une confession en particulier, mais depuis un certain temps, les chiites s'y trouvent bien pour pouvoir évidemment signer aussi, avoir un poids sur les décisions exécutives.
Oui, alors j'ai envie de dire, il faudrait juste rappeler deux choses. D'abord, cette idée de portefeuille qui serait un peu réservé à une communauté. Malheureusement, c'est aussi un peu une tradition libanaise. Pendant longtemps, le ministère de l'Intérieur, là, en tout cas ces dernières années, a été un peu réservé aux sunnites. Le ministère des déplacés avait été pendant un temps dans les mains des druzes, etc. On a malheureusement ce genre un petit peu de tradition.
Mais c'est pas institutionnalisé,
non,
par exemple, le poste de président.
Non, c'est plutôt des pratiques qui, on va dire, s'installent avec le temps. Et puis, bon, vu qu'on est tout le temps dans des logiques de partage du pouvoir, de négociation entre leaders communautaires. Bon, grosso modo, si les autres n'y voient pas trop d'inconvénients. Et puis, il y a toujours ce système de c'est un prêté pour un rendu. Si tu acceptes que je prenne ce portefeuille, je ne dirai rien si tu prends tel autre. Là, effectivement, sur le coup du portefeuille des finances, ça fait un petit moment, effectivement, que c'est Amal, en particulier, pas le Hezbollah, mais c'est Amal qui a la main sur le portefeuille. Là, donc, M. Berri, encore, insiste à nouveau pour le garder. Évidemment, le Hezbollah vient prêter main forte en disant nous sommes d'accord, mais évidemment c'est pas le Hezbollah qui a vraiment les yeux sur ce ministère-là. Mais il faut aussi comprendre que l'entêtement ici, il a une dimension de boîte aux lettres, c'est-à-dire que ce qu'essaye aussi de faire Amal et le Hezbollah, c'est de passer un certain nombre de messages, en l'occurrence deux. Amal essaye de faire comprendre aussi aux Libanais que ça fait justement, comme vous l'avez dit, un an quasiment que l'anniversaire de la protestation arrive, et c'est une manière aussi, c'est un peu un malheureusement, un pied de nez donner aux protestataires, ou grosso modo, on leur dit, bah, vous avez voulu nous dégager. Moi, en particulier, mon Nabih Berri, j'ai été très conspué. Moi, je Brand Basile, donc le leader du courant patriotique libre chrétien, le gendre de Michel Aoun, on a été les deux principales têtes de Turc qui ont tout pris dans la figure. C'est notre manière de prendre aussi une petite revanche, de faire comprendre que ben on est toujours là, on a toujours notre capacité de nuisance. Et c'est aussi une manière de faire comprendre aussi un autre message à Monsieur Macron, qui est que on apprécie beaucoup la France, on apprécie l'aide que vous nous avez apportée, mais au final, il faut que vous compreniez que les décisions ne se feront pas sans notre aval et que nous avons la capacité de bloquer si on en a envie.
Alors Ziad Majed, cette situation de blocage, on l'entend dans ce que vient de dire Aurélie Daher, elle prend la forme d'un blocage confessionnel. Il y a bien d'autres choses qui se jouent derrière, et c'est pour ça que on va essayer d'être pédagogique au cours de cette émission, mais c'est pour ça que c'est toujours un peu compliqué de comprendre véritablement la situation. Mais quel est votre regard à vous sur ce qui est en train de se passer?
Alors, il y a deux choses. La première, il est vrai qu'au niveau de la Constitution et des institutions, à part les trois postes, président de la République, premier ministre et chef du Parlement, il n'y a pas des précisions quant aux confessions et aux portfolios, aux ministères qui doivent gérer. Et c'est une illusion de considérer qu'il y a eu jusqu'à maintenant cette tradition-là, puisque très rarement les sunnites ont pris le ministère de l'Intérieur. Il y a eu Ziad Barout qui est maronite, il y a eu Michel Moore pendant 8 ans qui est grec orthodoxe, il y a eu plusieurs premiers ministres qui ne l'étaient pas. Même chose pour le ministère des Finances, il y a eu Idi Saba, il y a eu George Korm qui sont chrétiens, il y a eu Sanyura qui est sunnite. Donc c'est quelque chose un peu de nouveau que Hezbollah et Amal essayent d'imposer dans la formation des gouvernements. Et cela certainement cache autre chose, pas seulement un message iranien à travers Hezbollah et un message libano-libanais à travers Berri, qui est accusé d'être l'un des plus corrompus de la classe politique par les manifestants. Mais en plus, cela se pose aujourd'hui parce qu'il y a ce qu'on appelle le audit qui va venir. Le audit, c'est un mécanisme international que le FMI impose si jamais il doit aider économiquement le pays, s'il doit débloquer de l'argent. C'est ce que la France aussi souhaite faire par rapport aux dépenses du gouvernement libanais et par rapport à tout ce qu'il y reste dans la Banque centrale. Et pour pouvoir faire cela, le ministère des Finances est un ministère clé. Et il va pouvoir dévoiler également les chiffres, les comptes, qui tient quoi. Et Berri a évidemment une volonté de protéger des milliardaires, notamment de la communauté chiite, mais d'autres communautés qui ont des dépôts. Il y a la question de ce qu'on appelle le haircut, c'est-à-dire avec la faillite des banques, certains comptes vont devoir céder une partie des dépôts. Et il va y avoir un grand clash sur cela. Donc Berri est également au cœur de tout ça. Et il y a toutes les relations entre les banques privées et le Hezbollah, les comptes qui ne sont pas officiellement pour le parti, mais qui sont gérés par des proches du parti et qui sont sous les radars américains pour les sanctions. Donc Hezbollah et Berri souhaitent également les protéger en camouflant et en modifiant peut-être certaines informations. Ce qui fait que c'est un enjeu très important et ce duo chiite essaye de dire que vous ne pouvez pas nous dépasser On souhaite pas céder ni accepter un compromis par rapport à cela.
Alors on va quand même essayer au cours de cette émission de se concentrer malgré la multiplicité évidemment des enjeux que vous avez tous les trois décrits, internationaux, économiques, sociaux, politiques, les intérêts, la question de la corruption aussi évidemment, tout ça on va en parler, mais concentrons-nous sur la question confessionnelle puisque c'est le choix que nous avons fait, l'angle que nous avons choisi pour cette émission. Laure Stéphane, ce n'est pas la première fois et loin de là que le gouvernement libanais met du temps à coucher. Est-ce que vous diriez que cette fois-ci particulièrement la question confessionnelle entre en jeu? Vous avez publié dans Le Monde cette semaine un article où vous alliez un peu à la rencontre aussi des Libanais et beaucoup mettaient en avant la manipulation de la peur de l'autre, la tendance au repli communautaire. Est-ce que vous diriez que particulièrement cette fois-ci c'est un enjeu important?
Alors, je pense pas que la question communautaire soit plus importante maintenant que lors de précédentes formations de gouvernement. C'est une question qui est toujours là. Il y a toujours eu des tractations, effectivement, sur qui aura quoi. Il y a un contexte de crise généralisée qui fait que chacun va certainement essayer de défendre sa position. L'article dont vous parlez, c'était plus donc une rencontre à la fois avec des gens qui sont partisans déclarés et des personnes qui, elles, ne se revendiquent pas d'un chef politique, mais avance la peur de l'inconnu, en fait, comme frein au changement. Et voilà, je crois que c'est une question, cette question du repli, on la sent en ce moment au Liban. On la sent parce qu'on ne voit pas de perspective, ni qu'il s'agisse d'une alternative qui pourrait se concrétiser. Beaucoup de propositions d'alternatives existent, mais comment une alternative peut se concrétiser, ça reste une question. Et ensuite, on voit une crise politique qui est très forte, une crise économique, des indicateurs régionaux aussi qui sont préoccupants. Et donc, les différentes personnes avec qui je discutais exprimaient cette inquiétude. Et une phrase m'a marquée, c'était un Libanais qui disait « Oui, il faut un changement ». Ça, tout le monde est d'accord, en fait. Hein, même des partisans de chefs communautaires sont d'accord qu'il faut un changement. Et donc, c'est « Oui, il faut un changement, mais pourquoi est-ce qu'on va commencer par nous ?»
Oui, c'est très présent. En effet, j'évoquais dans le chapeau de l'émission une forme de schizophrénie. C'est pas mon diagnostic, évidemment. C'est quelque chose qui revient beaucoup, Aurélie Daher, dans la bouche de ceux qui suivent cette actualité du Liban et même les Libanais eux-mêmes. C'est-à-dire cette envie de changer et en même temps la peur, comme vient de le dire Laure Stéphane, de faire le premier pas. Parce que finalement, faire le premier pas, c'est s'exposer à ce que les autres n'y aillent pas. Et c'est aussi des enjeux de survie, tout simplement, qui sont... Il y a une longue guerre civile au Liban qui a fait plus de 150 000 morts au cours des années 80 et tout ça, il n'est pas loin pour les Libanais.
Tout à fait. Malheureusement, même si évidemment on a fait quand même un petit peu de progrès depuis les années 90, la peur qui existe entre les communautés, elle est encore là. Ou en tout cas, s'il n'y a pas forcément de la peur, il y a des grosses crises de confiance, surtout au moment où justement il faut prendre des décisions qui vont impacter l'ensemble de la population libanaise. Et puis, je pense que j'ai envie de dire que malheureusement, cette envie de changer, ce besoin de changer est venu à un moment où l'économique est dans un état tellement catastrophique que finalement les grands motivés des premiers temps, c'est-à-dire il y a un an, les personnes qui sont vraiment descendues dans la rue pour pensaient au changement et voulaient un changement, sont retrouvés coincés dans un espèce de dilemme, excusez le terme, mais je pense qu'il est pas trop fort, un dilemme dégueulasse, on s'est retrouvé où faut choisir qu'est-ce que je dois mettre avant. Est-ce que je dois effectivement faire un effort avec tous mes compatriotes dont malheureusement je maîtrise pas parfaitement l'engagement? Est-ce qu'ils sont aussi engagés que moi? Est-ce qu'ils veulent la même chose que moi? Est-ce que je prends le risque de tout foutre en l'air pour changer le politique à un moment où finalement la stabilité politique est plutôt présentée comme le seul moyen de faire en sorte que mes fins de mois ne disparaissent pas complètement? C'est-à-dire que malheureusement, la crise bancaire qui est arrivée juste de manière quasiment concomitante avec le grand moment, le grand coup de gueule politique de l'automne dernier, a un peu mis les Libanais devant un choix cornélien. Écoute, grosso modo, c'est soit tu veux bouffer, tu veux débloquer la crise des systèmes bancaires, mais dans ce cas-là, il va falloir que tu reprennes le système politique habituel, en tout cas le chemin du système politique habituel. Et là, les banques vont se détendre et vont arrêter de bloquer les salaires et les versements de dollars. Soit tu veux vraiment faire le saut dans l'inconnu, mais là, les banques ne vont pas aider et tu crèveras de faim. Alors, c'est pas forcément une perception qui est exacte. Hein. On parle de perception, on parle d'interprétation, de lecture de l'actualité. Mais grosso modo, il y a une grande partie, malheureusement, des protestants qui l'ont conçu comme ça. Et c'est ça qui explique aussi pourquoi une grande partie des protestants, après deux fins de mois difficiles, finalement, ont quitté la rue.
Ont quitté la rue. Rappelons quelques chiffres, Ziane Majed. C'est une économie en récession, l'économie libanaise. Plus de 150% du PIB sont consacrés à la dette publique. Enfin, la dette publique représente plus de 150% du PIB. Les banques où 1% des dépositaires détiennent 50% des dépôts, c'est peut-être aussi un point qu'il faut souligner. Les banques sont aux abois, l'hyperinflation, c'est-à-dire que tout l'argent qui avait été mis de côté par les Libanais qui le pouvaient ne vaut plus rien. Et on sait qu'il y a aussi la possibilité pour les Libanais, pour beaucoup d'entre eux, quand ils le peuvent, d'aller s'exiler, d'aller à l'étranger. Ben, ça, ce n'est plus possible, par exemple, et ça crée aussi cette situation de tension. Bref, et un dernier chiffre, 40% de chômage. Je crois, aujourd'hui. Bref, cette situation économique, voilà, elle sous-tend aussi toute cette situation qu'on est en train de décrire.
Absolument. Il y a une crise économique aiguë, un État dont les caisses ont été vidées, des dépenses publiques sans contrôle, une corruption qu'on a rarement vue dans d'autres cas. Il y a des accumulations également au niveau de la dette et du service de la dette. Et il y a des disparités. 1% détiennent 50% des dépôts. Les banques privées ont fait énormément de gains quant à la politique d'endettement. Et puis, il y a des gouvernements qui font des choix médiocres dans un moment où la croissance économique est négative, dans un moment où les choix stratégiques de Hezbollah, alliés de l'Iran, ont coupé le Liban des pays du Golfe qui envoyaient de l'argent historiquement pour soit aider l'économie, soit pour investir aussi politiquement et régler des comptes sur la scène libanaise. Et cela a causé des sanctions du côté américain. Puis il y a les retombées de la guerre en Syrie, dans laquelle Hezbollah est également engagé en envoyant des milliers de combattants pour soutenir le régime Assad, avec toutes les conséquences, y compris les réfugiés au Liban. Donc il y a une série de facteurs qui ont mené à cette crise financière économique aujourd'hui. Et le Liban seul ne peut pas s'en remettre. C'est-à-dire, il y a, techniquement parlant, il lui faut 40 milliards de dollars à peu près, selon les économistes, pour pouvoir se redresser. Et cela, ni l'économie locale, ni toutes les promesses d'aide ne peuvent satisfaire ses besoins. Ce qui fait qu'on est dans une phase extrêmement difficile. Et il est vrai que beaucoup de personnes qui étaient dans la rue ont été rattrapés par la crise économique, mais ils ont aussi été rattrapés par la répression violente dans la rue, par la contre-révolution qu'a menée Hezbollah en envoyant des centaines de jeunes avec le mouvement Amal tabasser les manifestants, brûler les tentes. Il y a eu le Covid-19 et le confinement, et puis il y a eu cette explosion terrible à Beyrouth qui montre toute la criminalité, j'ose dire, de la classe politique, suivie d'incendies et suivie d'une autre explosion dans le sud Liban, qu'on connaît toujours pas le contexte, oui, et les raisons. Il y a beaucoup de rumeurs, et avec le manque de transparence, il y a évidemment cette culture de la rumeur qui peut alimenter les peurs, les craintes, les crispations et donc les tensions. Mais je souhaite juste ajouter une seule idée par rapport au système confessionnel qui est en crise mais qui reste résilient. Il n'est pas seulement au niveau politique, c'est pas seulement un système politique, c'est aussi un système où toutes les institutions religieuses gère le statut personnel des individus. Chaque communauté et chaque institution religieuse a également des écoles, a des réseaux d'économie. Et puis le confessionnalisme, il est au niveau de l'administration. Cette classe politique, c'est-à-dire Birri, Hezbollah, Aoun, Hariri, Jumblat, Jaja, etc., sont au pouvoir directement ou indirectement depuis 92. Il y a évidemment parfois des groupes qui sortent, puis ils reviennent. Et depuis 92, donc on parle de plus de 28 ans, ils ont nominé dans les administrations tous les fonctionnaires, et donc ils sont tous, sans exception, responsables de la corruption, de la mauvaise gestion, et de choisir des personnes juste pour des appartenances de clientélisme confessionnel. Donc ils ont consolidé ce système, et c'est pour ça qu'il est devenu extrêmement difficile de le dépasser, parce que il faut tout un chantier à long terme qui commence en même temps à tous les niveaux, et évidemment ce n'est pas facile.
Alors Stéphane, vous étiez à Beyrouth le 4 août quand il y a eu les explosions dans le port, vous avez couvert cette situation. Est-ce que vous diriez qu'il y a eu là une nouvelle prise de conscience, que ça a été un point de bascule, ou est-ce que un peu comme ça s'est passé avec le mouvement du 17 octobre, finalement la situation est économique, tout ce qui vient d'être décrit fait que même quand il y a une prise de conscience, eh ben ça n'avance pas. Les Libanais ne parviennent pas à faire advenir peut-être cette nouvelle forme de régime auquel certains aspirent.
Alors je sais pas si on doit parler de prise de conscience. Je pense que ça a été plus un choc vraiment énorme, sidéral, face à l'ampleur de ce qui se passait et face au caractère criminel, effectivement, de la présence de stocks de nitrate d'ammonium dans le port de Beyrouth, qui est tout proche de la ville, hein, qui n'est pas distant, donc qui a fait autant de victimes, autant de dégâts. De la même manière, le 17 octobre, c'était pas une prise de conscience, c'était tout d'un coup cette crise économique qu'on sentait monter, Et donc la réponse à la crise économique, c'est de descendre dans la rue à ce moment-là. Et s'ouvrent toutes les demandes qui sont là depuis des années, parce que en fait, ce qui a commencé en 2019 avait déjà commencé en 2015, avait déjà commencé en 2011. 2011, manifestation pour demander la fin du système confessionnel, manifestation petite, mais manifestations qui ont quand même existé. 2015, réaction à la crise des poubelles qui bloque complètement Beyrouth. Et 2019, donc crise économique décente. Après la double explosion au port, on n'a pas vu en fait des manifestations d'ampleur. Alors certes, Ziad a parlé de la répression, mais je crois que s'il y a eu seulement des milliers de personnes qui étaient présentes dans le centre de Beyrouth le 8 août, c'est parce qu'il y avait en fait une énorme fatigue, un épuisement, un désespoir, et pour certaines personnes aussi, l'envie de peut-être d'être utile autrement en aidant dans les quartiers dévastés, même si les gens qui ont manifesté sont souvent aussi des gens qui étaient présents pour aider dans les quartiers dévastés. Je parlerai pas de prise de conscience, mais plus d'un processus qui continue. Cette colère, elle va pas disparaître. De nouveau, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire? Tout le monde ou une grande majorité de Libanais sont d'accord pour dire que le système politique aujourd'hui ne fonctionne pas, n'est pas efficace. Mais tout le monde n'est pas d'accord sur la manière de le transformer.
France Culture, le temps du débat du samedi. Raphaël Bourgois.
يا هموم الحب يا قبل في بحار الشوق تغتسل يا هموم الحب يا قبل في بحار الشوق تغتسل كلما قلنا صفى زمن رجعت كالريح تشتعل بحار الشوق تغتسل كلما قلنا صفى زمن رجعت كالريح تشتعل.
On a beau faire, on ne peut pas faire autrement que de passer Farouz, l'anxiété de l'amour. Même le président de la République, quand il va au Liban, va voir Farouz. Donc, comment faire autrement que de passer cette grande diva de la musique libanaise pour parler donc du Liban dans le temps du débat du samedi avec nos trois invités. Aurélie Dair, qui est enseignante-chercheuse à Paris Dauphine et à Sciences Po Paris. Ziad Majed, qui est politologue et professeur à l'Université américaine de Paris et depuis Beyrouth, avec la journaliste Laure Stéphane. Et on s'interroge, on se pose la question aujourd'hui de savoir si le système confessionnel libanais est au bord de l'implosion. On a commencé et esquissé un portrait du Liban d'aujourd'hui. Il y aurait certainement beaucoup plus à dire pour comprendre un petit peu ce qui se joue aujourd'hui et notamment autour de la formation du gouvernement qui se fait toujours attendre. Mais j'aimerais vous entendre les uns les autres sur cette volonté d'une nouvelle société libanaise telle qu'elle s'est exprimée dans la rue, notamment après le mouvement du 17 octobre. Et peut-être autour d'une revendication qu'on a beaucoup entendue, qui est celle d'avoir un véritable État libanais, un véritable État central, d'avoir un État civil, d'avoir même un État laïque. Je ne l'invente pas, c'est Michel Aoun, le président, qui en a parlé fin août. Et il a semblé, alors en tout cas c'est ce que j'ai pu lire, être suivi par Nabil Berik, dont on a parlé de Hamal, et même par Hassan Nasrallah du Hezbollah, qui n'avait pas l'air totalement hostile à l'idée. En tout cas, c'est ce que j'ai pu lire. Vous hochez la tête, Aurélie Dair.
Oui, il faut bien comprendre, donc, en fait, quels sont aussi les enjeux. En fait, paradoxalement, il y a de l'enjeu communautaire derrière la décommunautarisation. C'est tragique, mais c'est comme ça. Absolument. Je vais faire court et à peu près pédagogique, en tout cas aussi pédagogique que je peux. On va prendre un truc très simple. Au Parlement libanais, il y a 128 sièges. D'accord ? le système confessionnel politique libanais, donc qui n'est pas un système un homme, une voix, donc garantit les sièges par quota à telle ou telle communauté. Le système confessionnel libanais, tel qu'il est aujourd'hui inscrit dans la Constitution, prévoit qu'on est à 50-50. Les sièges du Parlement doivent être répartis à égalité, 50-50, entre les communautés chrétiennes, toutes confondues, et les communautés musulmanes, toutes confondues.
Ça date d'un recensement des années 30, puisqu'il n'y a plus de recensement de la population libanaise depuis les années 30. En tout cas, c'est aussi un argument qu'on entend beaucoup,
Alors effectivement, le dernier recensement officiel qu'on a eu, en l'occurrence, il était organisé par les Français en 1932, on n'a plus jamais organisé par ailleurs pour une raison qui est simple, c'est que personne ne veut en fait avoir d'idées très précises et prouvées de la proportion de chacune des communautés dans la population, parce que ça pourrait donner justement des idées à ceux qui tout d'un coup se rendraient compte avec bonheur que leur part a augmenté, de revoir le système. Et du coup, il faudrait ce qu'on doit donner à une communauté, voudrait dire devrait être retiré à une autre. On a 50-50 entre les communautés chrétiennes et musulmanes au Parlement, mais bon, on a trois grandes, si vous voulez, ça se joue entre trois grandes communautés. Hein, toutes les communautés n'ont pas le même poids. On a les musulmans sunnites, les musulmans chiites et les chrétiens maronites.
Parce qu'il y a 18 communautés reconnues.
18 communautés officiellement reconnues au ministère de l'Intérieur. Alors, tout le monde le sait, même si on n'a pas une idée précise des chiffres et des proportions, on sait quand même qu'il y a plus de chiites que de sunnites au Liban. Or, les deux communautés ont exactement le même nombre de sièges, 27, au Parlement. On sait aussi que les maronites doivent être à peu près comme à la même proportion que les sunnites. Or, eux, ils en ont 34 sièges. Bon, vous comprenez que, par exemple, d'un point de vue sunnite, d'un point de vue chiite, on n'a pas du tout intérêt à ce que le système bascule vers un one man, one vote, parce que, du coup, on pourrait bien se retrouver avec une population qui compte, alors certaines projections démographiques établissent à jusqu'à 50% des Libanais tant de confession chiite. On se dit, si jamais on fait sauter le système, on pourrait bien se retrouver avec un parlement à moitié chiite, un président chiite, un premier ministre chiite, etc. Donc, si vous voulez, dans cette peur de, on ne connaît pas très bien les chiffres, on sait grosso modo que finalement, on préfère avoir un tu tiens que deux tu auras. Et finalement, éventuellement certains pourraient avoir envie de réformer le système, la majorité des Libanais, que ce soit au niveau de la société, puis alors au niveau évidemment de la classe politique, c'est encore plus vrai, préfèrent encore rester avec le système actuel.
Oui, mais alors Stéphane Michel Aoun, il est chrétien, il n'est pas musulman. Quelle est, selon vous, la portée de cette revendication aujourd'hui d'un État laïque? Est-ce que, tout simplement, c'est une revendication qu'on entend aussi quand vous allez faire vos reportages, quand vous rencontrez les Libanais? Est-ce que c'est une revendication qui revient?
De la part des Libanais?
Oui.
C'est pas ça, on l'a entendu sur les places des manifestations, oui, beaucoup. Je crois que sinon, les gens qui ne participent pas aux manifestations, mais qui néanmoins voudraient aussi un changement, demandent un État tout court. Hein. C'est juste, on n'en est pas au niveau de savoir comment exactement cet État va s'organiser. On en est au niveau d'avoir un État qui vous protège, un État qui vous donne des services. Voilà, ça c'est la revendication première. Par rapport aux déclarations politiques dont vous parlez, que ce soit celle de Michel Aoun ou de Nabi Berri ou d'autres, je crois qu'on est quand même beaucoup plus dans la rhétorique qu'autre chose. Michel Aoun, ça fait des années, ou il y a des années plus exactement, il parlait de déconfessionnaliser l'État. Il est, depuis qu'il est rentré au Liban en 2005, dans un discours beaucoup plus communautaire.
Oui, tout à fait. Michel Aoun a fait toute une campagne politique pour dire qu'il est là pour reprendre les droits des chrétiens. Nabih Berri, on le voit aujourd'hui, avec Hezbollah, ne parle que des droits des chiites. Et donc, leurs déclarations sont tout sauf sincères et ils n'ont aucune volonté par rapport aux réformes et aux changements. Au contraire, ils veulent préserver ce système. Mais il y a autre chose aussi. Le problème aujourd'hui du système confessionnel, c'est que tel qu'il a été conçu en 1926, suivant le seul recensement de la population de 1922, parce qu'en 1932, c'était des projections, ce n'était pas un recensement. 1922, le seul recensement, avait montré 51,% des Libanais étaient chrétiens et 48,% étaient musulmans. Et donc, il y avait une part qui n'était pas 50-50. C'était pour chaque 6 chrétiens, il y avait 5 musulmans. au sein du Parlement comme au sein du gouvernement. Ce n'est qu'après la guerre civile avec l'accord d'OTAN que cela a été modifié vers les 50.
1989.
Ouais. 50, exactement, en 1989. Et depuis, il n'y a pas eu de recensement.
Ratifié en 90, oui, merci pour la précision, Aurélie Dey.
Et après, ce qu'on peut dire aujourd'hui au niveau des chiffres, on connaît les chiffres. C'est vrai qu'il n'y a pas de recensement, mais vous savez, chaque année, tous les maires publient le nombre des Libanais qui ont plus de 21 ans, parce que ce sont les listes électorales qui se préparent chaque année. Et on sait qu'au niveau de ces chiffres, on a à peu près 29% du côté chiite et sunnite, et dans les 30 et quelques pourcents du côté chrétien. Si on projette sur les moins de 21 ans, on aura des chiites à plus de 30% peut-être, sunnites un peu moins, chrétiens dans le même ordre. Et le système était conçu pour avoir une certaine, ce que les deux auteurs du pacte national de 1943 avaient appelé, une entente entre musulmans et chrétiens. Or, aujourd'hui, on n'a plus un duo qui se partage le pouvoir, mais on est beaucoup plus à trois camps, sunnites, chiites et chrétiens. Et cela rend tout le jeu politique extrêmement compliqué. La preuve, depuis la fin de la guerre civile, on n'a pas eu une seule élection présidentielle sans modifier la constitution ou après un vide au niveau de la présidence. On a rarement eu la formation d'un gouvernement d'une manière rapide. Ça prend des mois et des mois, parfois plus d'un an pour former un gouvernement. Donc, d'un point de vue réaliste, aujourd'hui, on peut dire que ce système ne fonctionne pas. Le grand défi, c'est comment le dépasser. Il y a des manifestants qui voulaient la laïcité, donc ils veulent abolir tout le système, et ça, c'est pas nouveau. Dans l'histoire du pays, la gauche libanaise, dans les années 70, avait proposé la même chose. Il y en a certains qui veulent appliquer l'accord d'OTAF, notamment les clauses qui n'ont pas été respectées, c'est-à-dire l'établissement d'un Sénat, où les confessions sont représentées, et libérer le Parlement de tout quota, confessionnel. Il y en a ceux qui veulent des réformes comme quoi on peut avoir les chrétiens, les chiites, les sunnites se partager à la fois la présidence de la République, le premier poste du Premier ministre. Donc il y a beaucoup d'idées, mais il est difficile de trouver un seul programme capable de modifier les rapports de force et d'imposer des réformes, parce que ce système-là, en plus, a une main mise sur les institutions religieuses. Il y a également l'économie, il y a le clientélisme. Donc, c'est vraiment un cancer dans un sens qu'il est très difficile d'affronter.
Beaucoup d'idées peut-être trop et surtout qui ne sont pas incarnées véritablement aujourd'hui par une figure politique qui pourrait la porter. Ça a été aussi un reproche qui a été fait au mouvement du 17 octobre, c'est-à-dire de n'avoir pas su, en tout cas de n'avoir pas pu peut-être aussi s'incarner dans des figures identifiables et qui pouvaient porter telle ou telle revendication telle que vous venez de les décrire, Ziad Majed. Mais je reviens vers vous, Laure Stéphan, un moment, parce que en introduction de Libanais, ce livre que vous publiez aux ateliers Henri Dougier, vous dites « Sans un nouveau pacte social et politique inclusif, les crises se poursuivront au Liban ». Et peut-être pour illustrer ça, quand vous avez dit tout à l'heure, les Libanais ne veulent pas forcément un État laïque, ils veulent un État tout court. Il faut bien comprendre qu'au Liban, il n'y a pas de code, enfin il n'y a pas de droit civil, il n'y a pas d'État civil. Et ça s'incarne par exemple dans la question du mariage. Ça peut paraître trivial, mais quand on explique, ça ne l'est beaucoup moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour les Libanais, il est impossible de se marier au Liban de façon intracommunautaire entre différentes communautés. Est-ce que c'est par exemple un élément qui pourrait expliquer un petit peu pour les auditeurs français qui sont pas forcément qui réalisent pas forcément cela, à quel point ce manque d'état civil est criant au Liban?
Alors ça peut être le mariage, effectivement, ça peut être aussi la manière dont on vote qui illustre bien cette situation. On vote par exemple au Liban, non pas à l'endroit où l'on vit, mais à l'endroit où est inscrite la famille paternelle. Donc même pour un Béroutin ou quelqu'un qui habite dans une ville qui va assez rarement au village d'origine, il est sans cesse renvoyé non seulement à la région d'origine mais aussi à la communauté d'origine puisque sur son état civil est mentionnée la communauté à laquelle il appartient. De même, effectivement, on ne se marie pas civilement au Liban, on peut faire enregistrer un mariage civil contracté à l'étranger, mais on se marie autrement, on se marie forcément devant un dignitaire religieux. Alors tout ça, c'est pas forcément ce qui empêche un État d'émerger, mais c'est quelque chose qui renvoie systématiquement chaque personne à sa communauté d'appartenance, à sa région d'appartenance, parce que l'appartenance régionale, c'est quand même aussi quelque chose de très fort au Liban. Et c'est sans doute aussi la question se pose tout le temps de je suis citoyen de quel pays où je suis citoyen de quel village j'appartiens à quoi finalement.
Alors une précision tout de même, quand je disais qu'il était impossible de se marier entre les communautés, c'est possible, mais ça suppose de se convertir, donc c'est pas vraiment possible non plus. En tout cas, ça demande de faire.
Ça dépend des communautés, ouais. Et puis ça va dépendre, par exemple, aussi si vous êtes en train de parler d'une situation où ce serait une femme chrétienne qui se marierait avec un musulman. Ça dépendra également de qui est le religieux qui procédera au mariage.
Merci pour ces précisions.
Parce qu'il y a 15 lois religieuses différentes qui gère le mariage, le divorce,
les naissances,
la garde des enfants, l'héritage, exactement. Donc ça dépend sur quel registre vous voulez inscrire votre mariage.
Cruellement de code civil. Alors.
Oui, un musulman peut épouser une chrétienne, une musulmane peut plus difficilement épouser un chrétien, ce qui fait que quand ils insistent, ils partent à Chypre et ils signent le mariage là-bas pour revenir l'inscrire au Liban.
Oui, mais alors Aurélie Daher, on voit bien qu'une situation comme celle-ci, elle touche aussi bien toutes les communautés. On a vu d'ailleurs que pendant les manifestations dites du 17 octobre, la jeunesse libanaise, en tout cas ceux qui manifestaient, se sont rendus compte qu'au-delà des confessions, au-delà du communauté, ils partageaient un certain nombre de problématiques, et notamment, sans parler des problématiques économiques évidemment, du chômage et de la corruption, cette problématique du code civil. On voit bien que ça pourrait unir peut-être des revendications. Pourquoi est-ce que ça ne permet pas, selon vous, encore aujourd'hui, de dépasser les problèmes qu'on décrit depuis le début de cette émission pour aller un petit peu plus loin et au moins créer cet État libanais, cet État civil libanais?
Dieu merci. Les Libanais, quand même, se retrouvent sur un certain nombre de valeurs. Je veux dire, il ne faut pas non plus concevoir la société libanaise ou le peuple libanais comme 3, 4, 18 peuples, chacun emmuré dans son coin.
Il ne faut pas finir cette émission sans avoir dit cela.
Non, Dieu merci, je veux dire, et Dieu merci, les Libanais peuvent se haïr entre communautés, mais ils peuvent aussi s'aimer entre communautés, et Dieu merci, on n'a jamais manqué de mariages mixtes, Dieu merci, même pendant la guerre, toujours eu des mariages mixtes, et parfois, je peux vous assurer qu'un mariage entre un monsieur maronite, donc chrétien catholique, et une dame grecque catholique, donc on reste entre catholique et entre chrétien, peut parfois être beaucoup plus compliqué, selon les familles, que marier, un chiite avec un maronite. Donc, non, Dieu merci, on se retrouve. Mais il y a eu quelques tentatives, hein. Il y a eu plusieurs moments dans l'histoire récente du Liban où, par exemple, pour rester sur le mariage, la question de proposer un mariage civil pour ceux qui ne voudraient pas passer par un mariage religieux, un mariage qui serait immédiatement déjà orchestré par l'État et directement enregistré par l'État, parce que là, pour l'instant, en fait, c'est pas l'État qui marie les Libanais, ce sont les Libanais qui se marient devant leur dignitaire religieux, et ensuite, l'État ne fait qu'enregistrer le mariage, mais il a pas son mot à dire. On passe pas devant Monsieur le maire, il n'y a pas de représentant de l'État en tant que tel, en tout cas conçu comme une institution décommunautarisée au Liban. Mais il y a eu des tentatives en 98 déjà sous le président Harawi, et ça a été la levée de bouclier, mais chez tout le monde, parce que là encore il y a aussi des réticences, c'est-à-dire que par exemple chez les chrétiens il y a aussi une peur que vu que quand même l'islam se transmet par le père, nos filles chrétiennes, il y a trop de filles chrétiennes qui se marient avec des musulmans, est-ce que aussi c'est bien pour le nombre de personnes de la communauté, puis là chez les musulmans actuellement avec les tensions sunnites chiites, il y a effectivement la question de l'héritage, puisque par exemple entre sunnites et chiites ça se passe pas de la même manière. Mais faut pas oublier que là encore le politique met son nez là-dedans, c'est que les dignitaires religieux eux-mêmes ont des accointances avec les autorités politiques et les leaders communautaires, et que si on accepte qu'il y ait à côté une autorité de l'État décommunautarisée qui gère aussi, c'est quelque part vous enlevez du pouvoir, vous enlevez du contrôle social à toute une flopée de dignitaires religieux sur leurs ouailles, et ça encore
Est-ce que, Ziane Majed, on a eu une illusion d'optique en voyant une sorte de nouvelle génération, de différence générationnelle émerger il y a un an, et une jeune génération de Libanais, peut-être plus éduquée, peut-être plus internationalisée, peut-être plus connectée, comme on dit évidemment, et qui était, semblait prête à dépasser tout ce qu'on vient d'expliquer?
Non, c'était pas une illusion, et ce n'est pas tout à fait nouveau, bien que maintenant on peut l'observer d'une manière beaucoup plus importante, et ça se traduit par exemple au niveau des élections au sein des universités, où les clubs qui s'appellent officiellement les clubs laïques, surtout dans les universités privées, sont en train de soit de remporter les élections, soit d'être le deuxième plus grand bloc. Et d'ailleurs, ce n'est pas une coïncidence que le système électoral libanais exclut les moins de 21 ans, parce qu'ils sont moins attachés encore au confessionnalisme, ils n'ont pas encore des intérêts économiques, ils ne cherchent pas le piston du religieux et de l'homme politique confessionnel qui essaye d'élargir sa base électorale et clientéliste. Donc il y a certainement aujourd'hui un décalage entre le système politique rigide mais résilient et cette classe politique-là très résiliente et très corrompue d'un côté, et une grande partie de la société qui cherche à dépasser les clivages actuels. On peut évidemment faire des analyses de classe, comme de classe sociale, comme sur toutes les sociétés du monde. On peut parler de la ville, notamment de Beyrouth et des autres régions. On peut trouver plusieurs angles pour analyser la société libanaise, et on peut, et c'est très légitime, de parler du confessionnalisme et de ses niveaux, puisqu'il a organisé l'État et la vie publique dans le pays pendant de très longues années. Mais certainement, il y a aujourd'hui au sein de la population et dans toutes les communautés une volonté de dépasser ce système, tout simplement, pas seulement pour des raisons de valeur, mais parce que ce système-là a mené à la situation actuelle. Ce système-là a mené à la catastrophe économique, financière, sécuritaire. C'est à cause de ce système-là qu'on a aujourd'hui une milice confessionnelle armée surpuissante qui est le Hezbollah, qui est engagé dans la guerre en Syrie, qui envoie des techniciens militaires en Irak, qui est sous ordre iranien. C'est à cause de ce système qu'on a l'Arabie Saoudite qui intervient et qui essaye aussi d'imposer ses choix. C'est à cause de ce système-là que la guerre civile a éclaté en partie. Et donc, il faut dépasser cette situation-là avec toutes les questions de la région, les menaces israéliennes, la politique iranienne et tout ce qu'on connaît aujourd'hui dans les relations internationales.
On se retrouve sur le diagnostic encore une fois, le comment devient beaucoup plus compliqué à expliquer. Alors Stéphane, quand même un mot sur cette jeunesse libanaise dont je demandais à Ziane Majed si ça avait été une illusion d'optique de penser qu'elle pouvait apporter un renouveau, porter ces nouvelles revendications. Quel est votre sentiment à ce niveau-là?
Non, effectivement, je pense également que cette jeunesse existe et que c'est des mots qu'on a beaucoup entendus, qu'on continue à entendre, c'est nous n'avons pas vécu la guerre, nous ne voulons pas continuer à vivre dans l'héritage de la guerre, parce que ça c'est peut-être une dimension dont on n'a pas parlé, c'est que finalement on est toujours dans une sorte d'après-guerre qui ne finit pas au Liban, toujours dans une sorte de menace d'instabilité. Et ça, c'est quelque chose qui pèse donc sur les décisions qu'on peut prendre. Et la jeune génération qui s'est mobilisée dans la rue, formulait ce désir en fait d'en finir avec cet héritage. Il y a d'autres personnes qui sont descendues également pour des raisons économiques qui sont quand même extrêmement importantes dans la mobilisation. De nouveau, se pose effectivement la question de qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Qui peut prendre le lead? Il y a eu deux récentes tentatives de former des plateformes de la part d'activistes ou de partis politiques non communautaires, on va dire. Pour l'instant, ces plateformes ont été mises en place. Reste à voir ce qui peut en émerger.
Eh bien, écoutez, on continuera de suivre évidemment cette actualité du Liban. On n'a pas fini d'en parler. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à l'émission. On mettra évidemment Aurélie Daher, Ziane Majed et Laure Stéphane, toutes les références de vos livres et articles sur le site, la page du Temps du Débat. À la réalisation ce soir, c'était Vanessa Nadjar, et à la prise de son, Philippe Mercher. Merci beaucoup à Sam Boutata pour sa précieuse collaboration. Lundi, le Temps du Débat, Emmanuel Oranta posera la question: qui a le dernier mot sur la politique agricole. Mais avant cela, évidemment, le prochain rendez-vous avec un magazine d'actualité. C'est à 11h dimanche, l'Esprit Public, Émilie Ambry, qui sera en public et en direct de l'espace Cardin et qui posera la question de la parole politique, a-t-elle encore de la valeur, et qui parlera aussi du Liban dans le cadre de ce week-end spécial en partenariat avec l'Institut du Monde Arabe, Liban, Moyen-Orient, au temps des lignes floues. Excellent week-end à toutes et à tous à l'écoute de France Culture. Tout de suite, on retrouve Hervé Gardette, politique.